Emmanuel Pella.
En septembre dernier, le grand hebdomadaire Paris Match consacrait rien moins qu'une série d'articles aux enfants de prêtres, allant jusqu'à l'intituler de manière tapageuse « Filles de prêtres, enfants de Satan », profitant de ces articles pour interroger le célibat des prêtres. Le célibat des prêtres, un sujet qui refait régulièrement surface et n'est pas sans poser de questions à tout à chacun. Difficile en effet de comprendre ce qui fonde une telle règle, qui plus est apparue au fil du temps. Alors quels sont les motifs de ce célibat? Comment est-il perçu dans et au dehors de l'Église? Est-ce là une règle immuable? C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Voilà, pour cette émission, donc Célibat des prêtres, pourquoi ? Je reçois ce matin Monique Bertrand, vous êtes laïque et auteur d'un ouvrage intitulé « Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ?» aux éditions de l'Emmanuel, et vous êtes titulaire d'une maîtrise de théologie sur ce même sujet. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc sujet, on va dire, délicat, sujet que vous connaissez très bien. C'est un livre que je recommande, hein, je le referai au fur et à mesure de cette émission, parce que très fourni. Vous me dites que vous avez travaillé combien de temps sur le sujet ?
8 ans.
Vous avez travaillé 8 ans. Alors 8 dites-nous ans. Tout, pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet, peut-être à titre personnel ?
Ah oui, tout à fait, c'est personnel. Je suis tombée tout à fait par hasard sur une émission de télévision sur des femmes de prêtres. J'ai été très touchée par toute cette souffrance qui était exprimée. Et il y a eu un ancien prêtre qui a dit « Mais personne dans l'Église ne veut se pencher sur ce sujet tabou. » Ça m'a interpellée. Je suis allée voir un ami prêtre, un prêtre d'un certain âge. Je lui ai demandé s'il voulait parler du célibat avec moi. Il a été un peu surpris, il a dit oui. Je pensais qu'il allait m'expliquer le bien fondé et j'ai découvert qu'il était absolument contre. Ça a été un choc pour moi, vraiment, parce que c'est un prêtre super. Je me suis dit, mais vraiment, il y a un problème. Et j'en voulais à l'église que je venais de rejoindre d'exiger une telle règle, en quelque sorte. Mais avant de l'accuser, j'ai voulu essayer de comprendre.
Alors, c'est ce que vous faites et vous intitulez la première partie de votre ouvrage « À l'écoute du monde ». Donc, ça prouve que vous avez essayé justement de comprendre. Vous dites en introduction que les médias sont coutumiers, comme je l'ai dit moi-même en introduction de cette émission, sont coutumiers de ce questionnement à l'égard de l'Église. Et vous citez un certain nombre d'exemples, entre autres, peut-être connu de nos auditeurs, le fameux téléfilm français Louis Page. Alors, qui est ce Louis Page, rappelez-nous, et en quoi il illustre en fait cette question récurrente dans les médias français?
Alors, Louis Page est un prêtre qui fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Lui-même est très réglo, il respecte le célibat, mais au fil des épisodes, on va s'apercevoir que les jeunes, finalement, ne rentrent pas au séminaire et préfèrent aller avec leurs copines. Les jeunes prêtres, souvent, ils quittent le ministère. Les vieux prêtres restent pour être fidèles, mais ils ont des paroles assez dures envers le magistère, où ils disent « on reste parce que l'Église interdit aux prêtres de se marier, notre compagne s'en va ». Finalement, il y a un message très clair qui passe. Un jour, il y a même un vicaire général qui a dit « mais moi, je suis de la vieille génération fidèle, mais qui voudrait aujourd'hui épouser une vieille fille comme l'Église ?» Et lorsqu'on demande à Louis Page, mais pourquoi le célibat, ben, il ne sait pas. Il dit que jusqu'au XIIe siècle, ben, les prêtres pouvaient se marier, et qu'après, l'Église a voulu mettre de l'ordre dans ses bataillons. Donc finalement, il y a un message très clair qui passe à travers ces épisodes.
Est-ce que vous avez d'autres exemples, hormis Louis Page, qui vous ont particulièrement frappé quand vous avez travaillé sur le sujet ?
Ah oui, par exemple, au journal télévisé, par exemple, un jour, ils ont fait un reportage sur le mariage de Léon Laclos, qui est un ancien prêtre. Ils ont montré la joie des mariés, de ceux qui étaient là à la cérémonie. Et puis, ils ont commenté, bien sûr, en disant que cela lui a coûté sa place de prêtre, parce que l'Église ne permet pas aux prêtres de se marier. Donc, l'Église est accusée d'être sans cœur.
Alors, plus largement, la société, semble-t-il, a du mal à comprendre, à l'image des médias, on va dire cette interdiction, en tout cas cette obligation du célibat. C'est pareil, qu'est-ce que vous nous diriez, qu'est-ce qui ressort de votre enquête, que pense le monde, d'une certaine manière, ou que pense la société actuelle de ce célibat ?
Alors, c'est vrai que j'ai fait une enquête auprès de la société. Je posais une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'exigence du célibat? Est-ce que vous savez pour quelles raisons l'Église a pris cette décision? Et souhaitez-vous qu'elle change?
Donc, c'est une enquête que vous avez menée par vous-même?
Ah oui, j'ai mené une enquête par moi-même auprès de toutes sortes de personnes, aussi bien chrétiennes, non chrétiennes, jeunes, vieux, différents milieux socioculturels, même en dehors du christianisme, etc.
À la faveur de votre maîtrise de théologie, vous avez fait cette enquête
non,
ou à la faveur de votre livre?
Avant.
Avant.
Avant, oui, non. Le livre est après la maîtrise.
D'accord, et alors qu'est-ce qui ressort voilà. de cette enquête ?
Alors, il ressort qu'il y en a qui sont absolument contre, mais vraiment contre. Le ton est parfois agressif. Alors, ils accusent l'Église, c'est très net, d'être rétrograde, sans cœur, bloquée sur une mesure surannée. Elle a une mauvaise conception de la sexualité. Elle parle de liberté, mais elle ne la respecte pas. Les prêtres sur les pauvres sont des hommes comme les autres. Ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles. Ils sont trop seuls. Ils seraient plus équilibrés, plus épanouis s'ils étaient mariés. Qu'est-ce qu'ils disent encore ? Oui, ils comprendraient mieux les problèmes de couple et de famille. Ensuite, pour eux, le célibat est un mal qui conduit aussi à des dérives, qui est responsable du manque de vocation, pédophilie, qui est source d'hypocrisie. Et puis après tout, les pasteurs et les prêtres orthodoxes, ils peuvent se marier. Donc pourquoi les prêtres ne peuvent donc pas se marier ? Et puis ils font référence au début du christianisme, ils disent les prêtres au début pouvaient se marier, avoir des enfants, pourquoi maintenant ne pourraient-ils pas le faire ?
Autre deuxième
pardon.
Allez-y, je vous en prie.
Ils disent que le prêtre devrait avoir le droit de se marier aussi bien avant qu'après l'ordination.
Deuxième catégorie, c'est les contre-modérés.
Oui, les contre-modérés. Alors, le ton a changé. Pour eux, ce n'est plus une revendication. Ce serait mieux si ils ont un petit peu les mêmes arguments que les contre-contre.
Est-ce que c'est les gens souvent qui connaissent l'Église ou pas spécialement ? C'est les gens qui ont une pratique religieuse ou pas spécialement ?
Dans les absolument contre, il y en a qui sont même des membres de l'Église, du clergé. Il y a de tout. Il y a de tout, franchement.
D'accord, il y a de tout, donc on le dira après, mais il y a de tout dans et en dehors de l'Église.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Alors, vous soulignez deux autres catégories donc, dans votre enquête, les plutôt pour et les franchement pour.
Alors, les plutôt pour eux, bon, ils reconnaissent que le célibat est une réalité difficile à vivre et que le mariage aiderait peut-être certains prêtres, mais pour eux, le mariage n'est pas le remède qui apporterait une solution pour les problèmes que l'on dit, la pédophilie, etc. Et puis, il y aurait peut-être un problème de disponibilité ou de ressources. Alors, pour eux, ils préfèrent que l'Église ne change pas d'attitude, mais ils restent quand même ouverts si jamais elle souhaite changer. Ils s'expriment clairement, eux, en fonction de l'ordination des hommes mariés. Ils disent même que les pré-retraités feraient un vivier de vocations.
Voilà. Alors, ceci étant dit, est-ce que vous pouvez nous dire à l'intérieur de l'Église... Oui, pardon ?
Oui.
Allez-y, je vous en prie.
Les absolument pour.
Les absolument pour, pardon, oui, je vous en prie. Allez-y.
Les absolument pour, eux, ils sont là, on est dans la théologie. C'est-à-dire que le sacerdoce est un don total, le prêtre est configuré au Christ jusque dans son célibat. Le monde actuel a besoin de témoins, alors ils mettent du royaume ou d'une autre réalité. Et paradoxalement, eux aussi font référence au début du christianisme. Ils disent que les apôtres ont tout quitté pour suivre le Christ. Voilà. Donc et pour eux, en plus, choisir d'être prêtre, pardon, c'est un acte de liberté de choisir le célibat aussi. C'est pas du tout quelque chose, une contrainte.
Alors, cette enquête étant présentée, est-ce que vous pouvez nous dire dans l'Église de France, je sais pas. Alors là, on imagine que on se demande toujours en fait quelle est, enfin, s'il y avait une enquête systématique, ce que diraient les chrétiens ou les catholiques pratiquants. Est-ce que vous avez déjà eu vent de ce type, hormis votre enquête, sondage ou ce type d'enquête, est-ce que ça a jamais été fait ?
Je ne sais pas. Personnellement, je n'ai absolument pas cherché à faire des statistiques. Je voulais m'intéresser aux raisons qui étaient avancées. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette question du célibat. Pourquoi, et pourquoi, contre.
Alors, vous abordez aussi la question de la pédophilie. C'est-à-dire, vous vous interrogez, vous dites, de fait, c'est souvent un argument, enfin, c'est souvent, en tout cas, c'est évoqué quand il y a des affaires de pédophilie. On peut l'entendre même dans des conversations, enfin, pas seulement de comptoir, disant que peut-être que ça éviterait ce genre de drame. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ?
Alors, à l'heure actuelle, la science dit clairement, maintenant qu'il n'y a pas de lien direct entre le célibat, l'absence de relations sexuelles, et la pédophilie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est célibataire qui va développer un comportement pédophile. En plus, il faut être clair, 85 à 90% des actes pédophiles sont commis par des hommes mariés et souvent dans l'entourage des victimes. Bon, il n'en reste pas moins que c'est absolument inadmissible chez un prêtre, un acte pédophile. Et le prêtre devrait être un garant de moralité. En même temps, il est là pour lui faire découvrir aux enfants le Père du Ciel. Donc on peut même s'interroger sur le rapport à la foi qu'auront après ces enfants.
Vous menez votre enquête, donc toujours dans cette première partie, en fait, vous l'élargissez au monde. Alors c'est pareil, on a l'impression que vous avez fait votre enquête en fait par vous-même.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez envoyé des questionnaires aux quatre coins de la planète. Toujours est-il que vous tirez un certain nombre de conclusions quant à la manière, on va dire, on va commencer comme on l'a fait précédemment, la manière dont le célibat des prêtres est vu à travers le monde. Alors est-ce qu'il est vu comme en France, comme une ineptie, ou est-ce que selon les cultures ou les latitudes, les choses sont vues un petit peu différemment?
Alors, ma question du départ était, est-ce qu'il y a une exception française? C'était ça. Donc, j'ai fait un sondage. Ce n'est pas une enquête exhaustive, mais je me posais la question, est-ce qu'on retrouve un peu la même problématique ailleurs?
Alors, cette enquête, vous l'avez menée sur, je ne sais pas, dans combien de pays ou auprès de combien de personnes?
Nombreux, très nombreux pays, aussi vraiment aux quatre coins du monde. Ça a commencé au Pérou. J'ai eu l'occasion d'aller au Pérou, et là-bas, j'ai eu vraiment une enquête assez approfondie. Ça m'a donné envie de continuer en retour en France. Et là, au fil des rencontres de personnes, soit étrangères en France, soit des personnes qui me donnaient des contacts à l'étranger, par internet, par téléphone, des questionnaires que j'envoyais, des discussions. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et
donc c'est plusieurs dizaines de pays, plusieurs centaines de personnes interrogées.
Oui, ça c'est, il y avait beaucoup de personnes, ça c'est sûr.
Alors qu'est-ce qu'il en ressort, le regard de la société à travers le monde?
Alors il en ressort qu'il y a une contestation réelle dans le monde, alors dans de nombreux pays. En Europe notamment, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, par exemple le Brésil, dans certains pays. Mais il y a aussi des pays où il n'y a absolument pas de contestation. Par exemple, en Asie, il n'y a pas de contestation. Et le célibat est même très, très important. Il serait inadmissible pour eux de voir qu'un prêtre puisse se marier. Et si d'ailleurs un prêtre a des dérapages, c'est très très grave, et je crois que le prêtre ne peut pas rester en fait.
Alors là, c'est quoi ces fonctions, quoi, des traditions culturelles, comment se fait la distinction, pourquoi un tel spectre?
Il peut y avoir un facteur culturel parfois, par exemple le respect des ancêtres, le respect de la famille, le respect des valeurs, tout ça. Ça peut jouer dans certains pays. En Afrique, il y a aussi des normes culturelles, par exemple, qui permettent de mieux comprendre le célibat. Et puis, par exemple, on m'a cité au Bénin, les chasseurs, les pêcheurs, qui devaient vivre dans la continence plusieurs jours avant de partir pour avoir une pêche, une chasse fructueuse. Il y a aussi au Gabon des eunuques guérisseurs. Donc, quand les prêtres, les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé normal qu'ils soient célibataires. Voilà, paradoxalement, dans la religion traditionnelle africaine, il y a l'importance d'être un ancêtre, d'avoir une descendance nombreuse. Donc, pour certains Africains, le célibat des prêtres ne devrait pas concerner l'Afrique.
Et alors, dans
un pays comme l'Inde, par exemple, il y a les gourous qui sont célibataires, ou les rishis qui ont une famille, mais qui ont tout quitté pour mener une quête spirituelle profonde, comme s'il y avait incompatibilité entre quête spirituelle et famille. Donc, d'un côté, c'est normal que le prêtre soit célibataire. Voilà.
Alors donc, il y a un spectre très large, on l'a bien compris. Quid de l'Église dans le monde? Est-ce que le célibat des prêtres est vécu de manière très disparate, ou est-ce que globalement, c'est une discipline qui est vécue, à l'échelle de toute l'Église universelle,
de toute façon, le célibat des prêtres concerne l'Église universelle. Ça fait partie de la discipline de l'Église catholique.
D'accord, mais vous me disiez en préparant l'émission que c'est pas toujours, le cas.
Il y a des pays où c'est plus ou moins bien respecté, où c'est plus ou moins bien admis, contesté, etc. Donc,
vous citiez des exemples, par exemple le Pérou.
Au Pérou, oui. On m'a dit au Pérou qu'il y avait des prêtres, par exemple, qui avaient quitté plus ou moins, qui ne vivaient pas le célibat, mais qui avaient des personnes dans le nord du Pérou qui leur demandaient de dire des messes à titre privé, alors qu'en principe, ils ne devraient plus dire de messes, ils sont dispensés de ministère.
À ce sujet, on entend souvent dire de l'Afrique que le célibat serait problématique au sein du clergé africain. Alors, est-ce que c'est pareil, c'est un poncif? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet?
Là, c'est difficile d'avoir vraiment une opinion très tranchée, sur une réponse tranchée. Il y a en effet beaucoup d'articles qui disent que le célibat est mal compris. Tout à l'heure, je parlais de la religion traditionnelle africaine ou de certains Africains qui pensent que ce n'est pas pour l'Afrique. Mais il y a par contre en Afrique, moi j'ai rencontré des prêtres et même des laïcs en Afrique qui m'ont dit combien c'était important pour eux le célibat et que le célibat soit respecté. Quelqu'un qui m'a dit au Mali, qui est un pays où il y a pas mal de musulmans, c'était très respecté, et que c'était des hommes de Dieu, et que justement le célibat renforçait cette consécration par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc il y a de tout. Moi je dirais, on ne peut pas avoir faut se méfier des poncifs et des...
Voilà. Alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser avant qu'on fasse une première pause musicale, mais vous la posez vous-même. Y a-t-il une baisse des vocations sacerdotales qui semble due à l'exigence du célibat à l'échelle du monde? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce sujet? Vous parlez de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, où de fait il y a une augmentation des prêtres.
Voilà, il est clair qu'en France, la vocation, c'est un appel du Christ. Hein. Donc il n'y a pas de baisse de vocation. Il y a peut-être des baisses de réponse à l'appel du Christ, mais baisse des vocations. Moi-même, je parle de baisse de vocation parce que c'est ainsi qu'on parle communément. Il est clair qu'en France, il y avait 1000 ordinations il y a 50 ans. Il y en a une centaine par an maintenant, donc c'est clair. Mais avant de dire que le célibat est responsable, il faudrait peut-être considérer d'autres statistiques. Par exemple, les mariages religieux, les baptêmes, les confirmations, toutes les courbes sont dans le même sens. Elles sont toutes descendantes dans la même proportion. Il y a en France peut-être 4,5% de personnes qui pratiquent le dimanche d'aller à la messe.
Et dans le monde,
donc il n'y a pas de terreau.
Cette question de vocation.
Voilà, par contre, dans le monde, les vocations augmentent. En Afrique, en 50 ans, je crois, il y a eu 75% d'augmentation des vocations. Et puis en Asie, 63%. Alors, bien sûr, il faut faire attention avec le statut du prêtre, qui peut-être a pu jouer ou peut jouer. Maintenant, cet argument est beaucoup moins prégnant, parce que dans le monde entier, le statut du prêtre baisse.
Voilà, vous dites 16 926 prêtres en 1978 et 29 274 en 2002 pour l'Afrique, soit plus 73%. Merci beaucoup Monique Bertrand, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le prêtre de demain sera-t-il célibataire? On fait une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour voir quelle est l'histoire de ce célibat, puisque malgré tout c'est une discipline, semble-t-il, qui est apparue au fil du temps. En tout cas, c'est l'argument qui est souvent ressorti, et voir quels sont les fondements scripturaires et théologiques de ce célibat.
Thank you. Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc célibat des prêtres, pourquoi ? Je vous rappelle que nous sommes avec Monique Bertrand, qui est laïque, qui est titulaire d'une maîtrise de théologie sur ce sujet, et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ?» paru aux éditions de l'Emmanuel. On le disait en introduction, vous citiez un certain nombre de... Vous citiez par exemple le téléfilm Louis Pagès. Je citais une série d'articles... Louis Page, pardon. Je citais une série d'articles parus dans l'hebdomadaire Paris Match, ne serait-ce qu'au mois de septembre dernier. Enquête donc sur les filles de prêtres, intitulée de manière un peu tapacheuse « Enfants de Satan » et reposant la question du célibat des prêtres. Bref, une question qui revient souvent et sur laquelle on n'a pas toujours les idées claires. Alors, vous nous avez expliqué quel était un peu le point de vue, on va dire, de la société, même dans le monde, en France, puisque vous avez mené votre enquête, une longue enquête. Et avec vous, dans cette deuxième partie, on voulait essayer de voir qu'est-ce qui pouvait fonder, dans ces cas-là, cette règle ou ce qu'on prend d'abord pour une discipline. Alors, que dire des premiers temps ? Peut-être avant que vous nous parliez des premiers temps, on entend souvent dire que le célibat des prêtres est apparu dans l'histoire de l'Église. Alors, qu'est-ce à dire avant que vous nous parliez des premiers siècles ? Le célibat des prêtres, à un moment, l'Église a décidé et ça n'a pas toujours été le cas ?
Alors, on dit en effet, la plupart des personnes disent que l'exigence du célibat des prêtres relève d'une décision tardive. Ce serait 11e, 12e siècle, enfin on ne sait pas trop. L'Église aurait tout d'un coup décidé, pris cette mesure. Bon, j'ai découvert que ce n'était pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées.
Alors,
donc, on peut revenir dès les apôtres pour voir un petit peu comment ça s'est passé.
Vous commencez en parlant de l'âge apostolique aux trois premiers siècles.
Tout à fait.
Vous dites que là, on n'a pas grand-chose. La seule chose qu'on a, c'est donc les évangiles et ce qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la discipline ou de la réalité de la vie des prêtres à cette époque ?
Alors, jusqu'au IIIe siècle, en effet, il n'y a pas de législation écrite. Par contre, il y a dans l'Écriture, on parle de la belle-mère de Pierre. Donc, les apôtres étaient vraisemblablement mariés. Est-ce que Pierre était veuf ou marié encore ? On n'en sait rien. Les avis divergent. Ensuite, les pères de l'Église, les tout premiers pères de l'Église, ils parlent de prêtres qui sont mariés et d'autres qui sont célibataires. Donc, il n'y a pas vraiment de règles fixes. On ne sait pas. Par contre,
c'est a priori un peu des deux, du coup, au début, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y en avait qui faisaient le choix du célibat, il y en a d'autres qui étaient mariés. Faut penser aussi que dans le judaïsme, les gens se mariaient. Enfin, le célibat est mal perçu dans le judaïsme. Donc le christianisme est quand même né au sein du judaïsme.
Alors vous parlez donc du 4e siècle, vous dites qu'au 4e siècle, il y a eu le concile, le canon 1 du concile de Néo-Césarée, en tout cas qu'il y a eu un début de législation en la matière.
Alors à partir du 4e siècle, il y a là des traces de législation, c'est clair, elles portent sur deux points. Donc comme vous le disiez, le canon 1 du concile de Néo-Césarée, en 314, il y a l'interdiction faites aux prêtres de se marier après l'ordination. C'est important de le souligner parce que beaucoup de personnes demandent que les prêtres puissent se marier après l'ordination. Donc ça n'a jamais été le cas finalement dans l'Église, au moins depuis l'an 314, aussi bien en Orient qu'en Occident. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est pareil en Orient. Ensuite, le deuxième point...
Et pourquoi ? Alors comment était justifiée cette règle ou cette...
De ne pas se marier après l'ordination.
Voilà. Ça semble naturel, je vois vous faire des grands yeux. J'imagine qu'à l'époque, on a donné quelques arguments.
Des arguments, pourquoi ne pas se marier après l'ordination ? Mais peut-être parce que vous allez voir que le deuxième point justifie qu'on ne se marie pas trop après l'ordination.
Alors, on vous écoute.
Non, c'est vrai que le deuxième point va surprendre et peut-être choquer certaines personnes, mais il va falloir l'expliquer. Le concile d'Elvire en 300, le canon 33, dit que l'interdiction est faite aux hommes déjà mariés au moment de l'ordination d'avoir des relations conjugales avec leur épouse et d'engendrer des enfants, ceci pour monter à l'autel et offrir le sacrifice. Alors, la question qui va se poser, on est en l'an 300, est-ce que c'est une nouvelle loi ou le rappel d'une loi ancienne ? Et pour les historiens actuels. Et là, il y a deux écoles, c'est très net. Pour la première école, c'est une nouvelle loi. On n'a pas de documents avant, donc ça date de l'an 300, c'est une interdiction de relations conjugales pour monter à l'autel. Et pour les autres, l'autre école, ils disent non, absolument pas. C'est le rappel d'une loi ou d'une pratique, parce qu'on n'impose pas une telle interdiction sans dire pourquoi ce qui était permis ne l'est plus. Or, aucun canon, après, par la suite, va le rappeler, mais ne dira pourquoi. Et en plus... Ils font référence au concile de Carthage de 390, le canon 2, où il y a marqué Ce qu'enseignèrent les apôtres et ce que l'Antiquité elle-même a observé, faisons en sorte, nous aussi, de le garder. Donc, c'est en 390, il y a une référence très nette aux apôtres et à l'Antiquité. Donc, la deuxième école dit, mais vous voyez bien que c'est un rappel pour un usage qui vient depuis les apôtres.
Alors, attendez, il y a une espèce de contradiction. Ce que vous dites, dans les premiers siècles, il y avait, comment dire, l'usage était double. Et là, vous dites qu'on
est... L'usage était double.
Vous dites qu'entre, si j'ai bien compris, vous dites qu'entre les temps apostoliques et le IIIe siècle, il existait les deux types de situations. À moins que je n'ai pas bien suivi, hein.
Il y avait des prêtres mariés et des prêtres célibataires. Mais ceux qui étaient mariés devaient être dans la continence.
D'accord.
C'était ça la question qui s'est posée au début du christianisme. Ce n'est pas la question du célibat, c'est la question de la continence des ministres du culte. Alors pourquoi cette exigence? Il faut quand même être clair. C'est que le christianisme est né au sein du judaïsme. Donc il y a une reprise des exigences de pureté cultuelle du sacerdoce lévitique. Alors là, il faut quand même essayer d'expliquer un petit peu ce que sont ces questions de pureté culturelle. Dans le sacerdoce lévitique, le prêtre est l'homme du sanctuaire, celui qui se tient en présence de Dieu, il touche les objets sacrés, il offre le sacrifice pour obtenir la bénédiction de Dieu. Mais pour s'approcher de l'autel, signe la présence de Dieu, le prêtre doit être pur, sanctifié. On est dans une logique de sanctification par séparation. Il faut qu'il se sépare du monde profane pour approcher de la sphère sacrée où se trouve Dieu. Voilà. Et parmi ces règles de pureté, de sanctification, il y a une des règles concerne la sexualité. Pour s'approcher de l'autel, il devait s'abstenir de relations conjugales. Donc s'il était de service journalier, le matin, il allait prendre un bain rituel au mikvé, et si jamais il était pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, à ce moment-là, il restait vivre dans le temple séparé de son épouse. La relation conjugale rend impure. Elle n'est pas impure en elle-même. Il n'y a aucune mauvaise conception de la sexualité dans le judaïsme. Au contraire, c'est un acte de grande sainteté qui participe au projet créateur de Dieu.
D'accord, voilà.
Donc ces questions
de... On peut avoir du mal à comprendre, parce que si de fait il n'y a rien d'impur, pourquoi dans ces cas-là... Pourquoi cette discipline ?
Alors, les questions de pureté et d'impureté n'ont rien à voir avec les questions de saleté, etc. Elles concernent le sacré et le profane, et le rapport mort-vie. Par exemple, une femme est impure quand elle a ses règles parce qu'elle n'a pas donné la vie. Toucher un mort rend impur. Donc voilà, un homme qui a des pollutions est impur. C'est un rapport, ça n'a rien à voir avec une mauvaise conception de la sexualité.
Alors,
c'est un projet de vie avorté, en gros, c'est ça. Donc il y a un temps de deuil, etc., qui fait qu'il faut après se purifier, et après s'approcher de Dieu, qui est le Dieu de la vie.
D'accord, oui, mais ces précisions sont nécessaires, ça vous paraît évident, mais ce n'est pas du tout pour tout le monde. Alors si on avance dans les siècles, il y a une étape importante, c'est autour de la réforme grégorienne.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu cette réforme grégorienne et qu'est-ce qui s'en est suivi sur ce sujet?
Alors d'abord, cette exigence de continence va être rappelée par de très nombreux conciles. Ce n'est pas uniquement en l'an 300, il va y avoir Carthage, Tolède, Turin, Orange, Tours, enfin, au fil des siècles, l'exigence est rappelée, et toujours cette question de monter à l'autel. Voilà. Alors ensuite, en effet, au XIe siècle, la réforme grégorienne, c'est pour mettre un petit peu d'ordre dans l'Église à l'époque. Il y avait la question de la simonie, il y avait par rapport aussi au célibat des prêtres, etc.
C'est-à-dire donc, que le clergé n'était pas dans un bon état, c'est...
Peut-être.
Enfin, on imagine que s'il y avait une réforme, c'est qu'il y avait des raisons.
Oui, ça. Oui, tout à fait, je pense. Et au XIe siècle, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus ordonner que des hommes célibataires. Ça ne va pas être une loi, ça va être un usage, une pratique. On n'ordonnera plus que des hommes célibataires. Et ensuite, les conciles de Latran, au XIIe siècle, c'est en 1123 et 1139, les premiers et deuxièmes conciles de Latran, eux vont fixer la législation. Ils vont dire clairement, ne peut être ordonné prêtre qu'un homme veuf ou célibataire.
Alors pourquoi? Quelle est la raison? Comment c'est expliqué? À chaque fois que je vous pose une question, je dois faire des grands yeux. Mais c'est la question que se pose tout le monde. Donc,
pourquoi veuf?
Je vous la pose.
Je pense que c'est par rapport à cette exigence.
On imagine que si vous avez écrit ce livre, c'est aussi pour comprendre le full.
Pourquoi
à ce moment-là, ils prennent cette décision qui est quand même
Je pense que ça posait quand même des questions d'ordonner des hommes non mariés. Étant donné qu'il y avait cette exigence de continence, ordonner un homme marié posait certainement des problèmes. Et puis après, on voit aussi qu'au fil des siècles, les raisons invoquées ont évolué. C'est-à-dire qu'au début, il s'agissait vraiment de pureté, de continence, de monter à l'autel, offrir le sacrifice. Il y avait une reprise vétérotestamentaire des questions de pureté cultuelle. Mais après, on va voir que la pureté des mœurs, au Moyen-Âge notamment, ça va devenir la pureté cultuelle va devenir la pureté des mœurs. Le prêtre va être un modèle pour exhorter les fidèles. La disponibilité du cœur, au départ, va devenir la disponibilité matérielle, être dégagé des contraintes familiales. Et il va surtout y avoir un recentrage christologique au fil des siècles. On va partir de suivre le Christ, on va partir à imiter le Christ, après maintenant être configuré au Christ. Pasteur d'abord, le berger des brebis, etc. Et puis maintenant, c'est très clair, avec Jean-Paul II, l'accent est mis sur la configuration au Christ époux.
Alors attendez, je vous arrête deux secondes, Oula. Excusez-moi, je vais vous poser encore une question, vous allez encore me faire les gros yeux. Mais imaginez pour quelqu'un, pour le grand public, néanmoins, de fait, un jour, cette discipline a été décidée, donc aux environs donc, du XIIe siècle. Ça peut être difficile à comprendre que les choses, comment dire, évoluent ou que si elles ont évolué dans un sens, on peut imaginer qu'elles puissent évoluer dans un autre. Comment rendre compte de ça
Je crois qu'il y a un approfondissement du mystère du Christ. Au début, je crois que l'Église a petit à petit approfondi la théologie du sacerdoce.
Parce qu'au départ, on découvre petit à petit en fait de quel mystère elle vit, c'est ça.
Au départ, on était dans une logique de sanctification par séparation, c'est très net dans l'ancienne alliance. Mais avec la nouvelle alliance, on va passer dans une dynamique de solidarité, de communion. Le Christ en s'incarnant, s'est complètement solidaire des hommes et pleinement homme. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, pleinement homme. Donc il n'y a plus cette séparation entre Dieu et l'homme. Donc, on va passer à une adhésion au Christ, à une communion au Christ, une sanctification par adhésion, participation au mystère pascal, etc. La croix est l'envers de la chute, en quelque sorte.
Et l'Église, donc, met du temps, d'une certaine manière, quoi, à creuser ce mystère.
Met du temps, mais je crois qu'elle approfondit le mystère.
Voilà, ce qui nécessite d'être précisé.
Et à l'heure actuelle, c'est très clair avec Jean.
Alors justement, venons-y.
Jean-Paul II,
Il y a eu Jean-Paul II et pas que. Hein, donc Paul VI, on a parlé aussi. Benoît XVI, là-dessus, qu'est-ce que vous me diriez que disent les papes du XXe siècle sur ces sujets?
Les papes du XXe siècle, ce qu'ils disent, ils approfondissent tous la question du sacerdoce. Enfin, tous. Ils rappellent tous l'exigence du célibat. Suivant les papes, ils mettent l'accent sur différentes choses, soit la disponibilité, soit le signe au milieu d'une société déchristianisée, etc. Il faut qu'il soit un signe. La configuration au Christ, la disponibilité, le don total. Et là, maintenant, c'est vraiment la dimension nuptiale du sacerdoce qui est mise en lumière avec Jean-Paul II.
Alors, Monique Bertrand, maintenant que vous nous avez dressé un rapide panorama de l'évolution historique, la découverte, l'approfondissement de ce mystère, comme vous nous disiez, est-ce que vous pouvez nous parler donc des fondements scripturaires de ce qui est cette discipline ou cette règle donc qui existe aujourd'hui? Vous citez dans votre ouvrage donc ce passage des Évangiles en Matthieu 19. Où le Christ, à ses paroles, il dit « Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume. » Alors, est-ce que c'est la parole qu'on avance pour fonder ce célibat?
La parole, peut-être pas. C'est une des paroles que l'on peut retenir. Mais il est clair que Jésus n'a jamais exigé le célibat. Il n'a jamais dit à ses apôtres « Vous me suivez maintenant, vous êtes célibataire, ou ceux qui vont me suivre devront rester célibataires. » Bon, il est clair qu'il parle des eunuques pour le royaume. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui renoncent au mariage pour le royaume. C'est ça que cela veut dire. Pourquoi pas les prêtres, par la suite, ça peut être interprété. Il continue aussi, le Christ, il dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses frères, etc. » Il cite la femme et les enfants. Donc, pour certains, il dit ils ont tout quitté, les apôtres ont sans doute tout quitté pour suivre le Christ. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre parole dans les Écritures? Il y a une parole qui est citée quelquefois en référence référence, c'est une parole de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une femme comme font les autres apôtres ? Donc, en français, on ne voit pas très bien pourquoi, mais en grec, pour mettre le mot femme, il y a en réalité deux mots qui sont accolés. Il y a le mot guné, qui signifie la femme, la maîtresse de maison, l'épouse, et il y a adelphée, qui signifie la sœur de sang ou la sœur par le baptême, la sœur en Christ, et qui désignera plus tard les religieuses, les consacrées. Donc ça veut dire, il dit en général, est-ce qu'on n'a pas le droit de mener avec nous une femme sœur ? Donc certains se sont posé la question de savoir si les femmes qui suivaient le Christ, avec les apôtres avaient leurs femmes et ils ne s'y vivaient pas comme frères et sœurs. Mais tout ça, ce sont des... voilà. Après, alors... il y en a une autre, par contre, pardon, qui, une parole de saint Paul, qui dit « L'évêque doit être homme d'une seule femme. » En la première, à Timothée. Et alors, que signifie cette femme ? Il y en a qui disent de suite, vous voyez bien que l'évêque, il doit être homme d'une seule femme, il doit être donc marié. Les autres disent, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il ne doit pas être ni bigame, ni remarié. Et après, il y en a qui disent, il doit même être célibataire, parce qu'il devient l'époux de l'Église. Donc, il doit être dégagé du mariage. Il bon, faut noter quand même qu'au début du christianisme, on disait parfois que l'Église était veuve à la mort de l'évêque. Donc, chacune de ces explications peut être plausible.
Alors après, donc, vous parlez des fondements théologiques. Donc, vous dites entre autres donc, que le prêtre est signe du royaume. Alors aujourd'hui, on comprend ce que veut dire cette expression. On comprend à peu près quand on est catholique pratiquant ou familier ou qu'on connaît des prêtres, surtout des personnes consacrées. Qu'est-ce à dire signe du royaume ? Ça veut dire quoi ?
Il est signe d'une réalité, il est signe du royaume des cieux. Mais c'est ce que demande l'évêque à l'ordinant au moment de l'ordination. Voulez-vous garder le célibat pour être signe du royaume, pour signifier le royaume ? Donc c'est en effet un des fondements théologiques. À l'heure actuelle...
Signe du royaume, ça veut dire que Dieu un jour nous comblera tellement que du coup on ne pourra vivre que de Dieu, c'est ça ?
Alors non, mais je pense qu'on peut y revenir un peu plus tard au signe du royaume, parce qu'on le comprend mieux en rentrant dans la théologie de Jean-Paul II et de la dimension nuptiale du sacerdoce. Je pense. Alors, je n'essaie pas de me dérober, mais je pense qu'on peut peut-être le compléter ou avoir une autre lumière avec les autres arguments.
Alors, je ne sais pas si
les autres arguments, il y avait au départ la pureté cultuelle, mais on a vu qu'elle n'est plus du tout d'actualité. Ça, je suis claire. On n'est plus dans une logique, comme je le disais tout à l'heure, de sanctification par séparation. Le Christ s'est fait pleinement solidaire avec les hommes. Il a épousé la condition de l'homme. Jésus, fils de Dieu, devient fils de l'homme. Donc la sanctification de l'homme, elle se fait par adhésion, par union, communion au Christ, participation à son mystère pascal. Le sacrifice, il n'est plus extérieur, mais il est intérieur, c'est la transformation du cœur. Il faut prendre conscience que la croix, c'est vraiment l'envers du péché des origines, qui a été un manque de confiance, qui a été désobéissance. Il y a eu une rupture de l'alliance à l'origine. Et le Christ, sur la croix, il est dans l'obéissance absolue. Il y a union de volonté entre le Père et le Fils. Il est dans la confiance totale au sein de la souffrance, qui est le lieu de le plus enclin à manquer de confiance. Et en lui, fils de l'homme, c'est toute l'humanité qui dit oui au Père.
Mais quel est le rapport avec le célibat des prêtres dans ces cas-là ?
Parce que c'est parce qu'il est époux qui sauve, et comme le prêtre est configuré au Christ époux, il faut rentrer dans la dimension nuptiale du sacerdoce.
Voilà.
De son côté, on dit très
clairement. C'est la nécessité de la configuration au Christ, en fait, qui fait que le célibat des prêtres a son fondement, je sais pas, théologique le plus profond.
Ah non, on ne peut pas. Mais on peut dire quand même que je termine par rapport à la croix, que c'est l'alliance est rétablie avec le nouvel Adam. On dit que le Christ est le nouvel Adam, et de son côté naît la nouvelle Ève, l'Église. Or, la dimension nuptiale du sacerdoce, c'est la configuration au Christ époux. Le prêtre n'est pas un vieux garçon amputé d'une partie de lui-même. Il est configuré au Christ époux. Il est époux quelque part, ouvert à la paternité. Et l'Église, son épouse, a un rôle à jouer pour le faire advenir à lui-même. Donc c'est pour ça que je me permettais d'insister un petit peu sur cette dimension nuptiale. Jean-Paul II, d'ailleurs, le dit très très clairement. Il a écrit une exhortation apostolique pastores à vos boubis, je vous donnerai des pasteurs. Et il dit, le célibat sacerdotal n'est pas à considérer comme une simple norme juridique, ni comme une condition toute extérieure pour être admis à l'ordination. Au contraire, donc, c'est pas une question de discipline. Au contraire, le célibat est une valeur profondément liée à l'ordination, donc au sacrement de l'ordre pour lui. Il rend conforme à Jésus-Christ, bon pasteur et époux de l'Église. Il faut considérer le célibat comme une grâce spéciale, comme un don que tous ne peuvent comprendre, mais seulement ceux à qui c'est donné. Cette grâce exige avec une force singulière la réponse consciente et libre de la part de celui qui la reçoit.
Voilà, donc ça c'est sur les fondements scripturaires et théologiques. On va faire une deuxième pause musicale et puis après on va essayer de voir pourquoi, en fait, comment essayer d'expliquer dans ces cas-là au monde d'une certaine manière, quand on n'est pas familier de tous ces mystères, quand on a du mal à les comprendre de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire. Et puis on va évoquer la question des prêtres catholiques orientaux qui pour certains sont mariés, ou par regard aussi tout ce que venait de dire, pourquoi les pasteurs protestants, eux, dans ces cas-là, se marient. Voilà, on fait une seconde pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ?» aux éditions de l'Emmanuel.
Il y a des étoiles sur le ciel, fenêtres au rire d'or où viennent se pencher. Peut-être les joies du ciel, silencieux dessins d'abeilles. J'avais faim, je suis allé. J'ai gravi des routes telles, j'ai crevé des pans de ciel. J'ai roulé dans la lumière, tout à fait coup de terre. Elle était tombée par terre. Elle n'avait presque plus l'air. Il y eut amour de moi vers elle. Au bout de la nuit, je la suivis et je trouvais le ciel. Des étoiles sur le ciel, fenêtres au rire d'or.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc sur le célibat des prêtres, pourquoi ? Si vous nous prenez en cours de route en cette fin d'émission, je vous rappelle que nous sommes avec Monique Bertrand, qui est laïque, qui est titulaire d'une maîtrise en théologie sur ce sujet des célibats des prêtres, et auteur d'un ouvrage aux éditions de l'Emmanuel intitulé « Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ?» Alors à la fin de cette émission, Monique Bertrand, la question que je voulais vous poser, c'est que on sait, alors c'est peut-être pas connu de tout le monde, qu'il y a des prêtres catholiques orientaux qui sont mariés, et en tout cas des prêtres orthodoxes qui sont mariés. Comment comprendre le fait que ce qui semble être du coup, enfin avoir des fondements scripturaires, avoir une cohérence théologique de fond, ne soit pas applicable à tout le monde? Pourquoi y a-t-il ces exceptions?
Il y a en effet des prêtres catholiques mariés. Il y a déjà les anciens pasteurs qui sont devenus catholiques. Eux, ils ont une dispense de célibat, tout simplement. Après, il y a toutes les églises catholiques, gréco-catholiques, etc., rattachées à Rome. Et elles dépendent un peu de la législation de l'Église d'Orient ou l'Église orthodoxe, qui ont une législation différente, qui dépendent du concile Intrullo en 691, où il est dit que ce sont les évêques qui s'inscrivent dans la succession apostolique, qui eux sont célibataires ou veufs, mais les autres, les prêtres, peuvent être mariés, ne peuvent pas se marier après l'ordination, mais ils ont une autre législation. Beaucoup de personnes font des comparaisons avec l'Église orthodoxe, en effet, ou l'Église d'Orient. Oui, pourquoi pas, mais il y a quand même des différences à noter, des différences importantes. C'est que dans l'Église orthodoxe, par exemple, le sacerdoce n'est pas une vocation en soi. Il y a deux vocations qui sont proposées aux baptisés, c'est soit le mariage, soit la vie religieuse. Et le sacerdoce s'inscrit sur un de ces deux chemins. C'est plutôt un service ecclésial qui s'inscrit dans une de ces vocations.
C'est-à-dire dans la vocation au mariage,
du coup ? La vocation au mariage, donc ça veut dire que les personnes se marient, un homme se marie, et après, il peut en effet envisager le sacerdoce, et le sacerdoce se greffe en quelque sorte sur la grâce ce mariage, etc. Il faut savoir aussi que c'est les évêques qui ont la plénitude sacerdoce du Christ et les prêtres mariés ont une participation spécifique au sacerdoce de l'évêque.
Alors, pardon si c'est une question piège, j'espère que ça ne l'est pas, mais on peut se dire que nos frères orthodoxes en fait lisent les mêmes écritures,
oui.
Qu'ils essayent d'approfondir le même mystère.
Oui.
Pourquoi ils n'en tirent pas les mêmes conclusions? C'est difficile de répondre, j'imagine, mais...
Il est difficile de répondre, et ça fait partie de mes interrogations, malgré mes 8 ans d'études, en ce sens que je pense qu'à l'heure actuelle, vu l'approfondissement théologique avec Jean-Paul II de la dimension nuptiale, il faudrait se pencher sur des questions théologiques de fond, voir un petit peu qu'est-ce que signifient des termes comme représentation sacramentelle, icône du Christ, configuration au Christ, etc.
Parce qu'il y a,
parce qu'il y a quelque chose de très très important que je voudrais quand même signaler par rapport à l'orthodoxie et l'Église romaine, c'est que dans l'Église catholique romaine, le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire il tient lieu et place du Christ, il agit comme à la place du Christ dans l'Eucharistie notamment, il est face à l'Église, etc. Tandis que dans l'orthodoxie, le prêtre n'est jamais in persona Christi, il est in persona Ecclesiae, c'est-à-dire au nom de l'Église, il rassemble en lui toute l'Église derrière lui pour offrir le sacrifice, etc. Donc il y a quand même des différences théologiques entre les deux. Je crois que tout ça, il faut approfondir pour savoir de quelle manière, quelle est la place du célibat dans cette dimension nuptiale et dans l'identité sacerdotale du prêtre.
Alors la dimension nuptiale, pour ceux qui prendraient la émission en cours de route, est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots, enfin quelques mots, ce que c'est, et du coup nous dire pourquoi, en tout cas pour la tradition catholique aujourd'hui, c'est un peu la fine pointe de l'explication, de la justification de ce célibat.
Tout à fait. C'est la dimension nuptiale, c'est la configuration au Christ époux de l'Église. Alors c'est un mot qui paraît très compliqué, mais finalement la réalité c'est très simple, c'est par la charité, dans le quotidien de son ministère, en étant absolument donné à l'Église son épouse, etc., que le prêtre vit la dimension nuptiale de son sacerdoce. Mais ça veut dire aussi que l'Église elle-même, elle a une part à jouer pour faire advenir, comme je disais, le prêtre à lui-même. Ils sont à l'image du Christ et de l'Église, mais il faut dire aussi que les époux, c'est pareil. L'époux devrait pouvoir dire à son épouse, voici mon corps livré pour toi, du don mutuel de leur communion, un enfant ou la fécondité, etc. Je crois qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre le mariage et le sacerdoce, la configuration au Christ époux.
Alors, si on cite les protestants...
Alors, les protestants, on n'est pas du tout dans la même logique. On compare, les pasteurs et les protestants, les pasteurs et les prêtres. Un pasteur n'est pas un prêtre. C'est un pasteur, c'est quelqu'un qui a fait des études de théologie, qui est accompagné par une commission des ministères, qui l'admet, en quelque sorte, qui leur dit, vous êtes apte à exercer le ministère de pasteur. Donc, ça peut être un homme, une femme, pour un temps déterminé. Il peut dire, au bout de quelques années, moi, j'arrête. Une femme peut dire j'arrête pour élever mes enfants. Il n'y a absolument pas de sacrement, pas d'ordination. On n'est pas du tout dans la logique. On n'est pas non plus tout à fait dans la logique par rapport à la présence réelle de l'Eucharistie. Donc il faut faire attention avant de faire des comparaisons hâtives entre les ministères, les ministres des différentes traditions religieuses.
Alors peut-être pour finir, c'est vrai que on voit qu'il y a chez les chrétiens différentes traditions, même si on a compris en fait, on l'espère à la fin de cette émission, pourquoi chez les catholiques en fait l'approfondissement donc du mystère de ce qu'est le prêtre en fait a fini par rendre naturel, j'ai envie de dire, ou en tout cas normal cette règle du célibat, mais on peut pour quelqu'un qui est extérieur, enfin, on comprend pourquoi dans ces cas-là, les journaux télé, pourquoi les médias font ces enquêtes, parce que quand on ne croit pas à l'existence du Christ, ou quand on a du mal à, ne serait-ce qu'à croire à ça, alors encore plus ce mystère de nuptialité que vous décrivez, c'est difficile à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension, en fait, à laquelle, d'une certaine manière, on est un peu condamné?
Ou condamné, on n'est pas condamné, jamais. Moi-même, j'étais dans l'incompréhension totale au départ. Je suis partie d'un cri de souffrance très humain, mais je suis arrivée au pied de la croix, dans la contemplation d'un mystère qui dépasse l'homme. Donc je pense que le chemin que j'ai fait, d'autres peuvent le faire. À l'heure actuelle, la question du célibat se situe au niveau de la conception. Or, pour agir juste, il faut décider juste. Pour décider juste, il faut penser juste et concevoir juste. Et je crois que dans la société, les personnes ne savent pas pourquoi le célibat. D'une certaine manière, déjà, le célibat ne peut pas être compréhensible sans la foi. C'est quelque chose, ça peut être une amputation, ça peut être n'importe quoi, mais on ne peut pas comprendre la question du célibat des prêtres sans la foi. Donc, comment faire pour sortir de l'incompréhension? Il faudrait déjà une formation très importante au niveau des séminaires, des prêtres eux-mêmes, qui quelquefois... Il faut qu'ils puissent se rendre compte de la raison de leur célibat. Et puis, que les personnes aient aussi envie, peut-être, de se poser la question. Mais souvent, les personnes, elles se contentent des médias. La télévision dit que, et puis on pense que c'est vrai.
Voilà, donc d'où l'intérêt d'écouter Vivante Église. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Monique Bertrand, « Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ?» paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, merci de votre travail, merci de votre patience avec mes questions, même un peu, parfois un peu surprise. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Présence. Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y'a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tourne. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour. Vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez.